Je suis en ligne, notre invité nous fait l'amabilité d'être sur Liberté FM, Jean-Marie Bourlan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'un des coprésidents des patrimoniales et notamment Saint-Germain-du-Salambre en ce qui vous concerne. Nous allons évoquer avec vous un des rendez-vous importants puisque c'est ce samedi dans le cadre des patrimoniales. Que proposez-vous ?
Voilà, alors samedi, nous ouvrons notre saison 2026 au sein des patrimoniales, notre programme de l'année, qu'on va commencer par un sujet qui est très local, bien qu'il ne soit pas vraiment de la vallée du Salambre, mais pas loin. Il s'agit de l'habitat rural de la Double et du Landais. Alors, on peut le considérer comme un habitat vernaculaire, puisque c'est traditionnellement fait avec, alors c'est 18e et 19e, voire même jusqu'au milieu 20e, il est traditionnellement fait avec le savoir-faire et les matériaux du cru. C'est pour ça qu'on peut le qualifier de vernaculaire. En l'occurrence, les matériaux, ce sont le bois et le torchis. Ce sont les maisons à colombage. Donc c'est une présentation... samedi, donc ça sera une présentation de recherche approfondie sur l'habitat rural ancien et tout particulièrement les bâtiments à colombage, comme je viens de le dire, c'est-à-dire les fermes, les granges et les dépendances. C'est une sorte d'inventaire de toutes les constructions qui ont structuré la vie paysanne locale pendant cette période. Alors on connaît tous les maisons en bois et torchis avec les tables à côté, la grange. Il y en a encore beaucoup dans le secteur qui ont été heureusement restaurées. Certaines sont encore dans leur jus. Mais on va découvrir également d'autres sortes de constructions qui sont un peu tombées dans l'oubli, c'est-à-dire les séchoirs, noix et châtaignes, les fumoirs, les poulaillers, les pigeonniers, les hangars en brande, très très local, les fours à pain, bon, bien entendu, mais qui sont plus répandus, les éviers en pierre, les chaudières en fonte, enfin tout ce qui accompagne la vie paysanne. Alors l'intervenant, qui s'appelle Marc Bonnier, qui est un érudit local du Landais, je pense qu'il habite de mémoire le canton de la Force. Il voue une véritable passion depuis des dizaines d'années pour ce type d'architecture, et y compris pour les coutumes et le mode de vie qui va avec. C'est ça qui est très intéressant dans son intervention, c'est que il ne se contente pas de faire une énumération de ce type d'architecture très très particulier, très local. Il accompagne toutes ces vues, justement, de ces coutumes qui allaient avec autant avec la construction qu'avec l'utilisation et la vie dans ces bâtiments-là. Alors, son travail, il repose surtout sur l'observation et l'étude d'étudier les techniques de construction de l'époque est très, très important. La transmission de ce savoir-faire ancien. Voilà, donc, moi, je pense que c'est une... On a déjà eu l'occasion de le voir au musée Voulle, et on a été, bien qu'on soit quand même... Enfin, moi, personnellement, je suis né ici, je connais très bien, même si on est en bordure de Double, j'ai appris énormément de choses, alors que je croyais en savoir une grande partie sur cet habitat landais et doubleau.
C'est vraiment typique à cette partie de la Dordogne, ce style d'habitat ?
Complètement. Complètement. Alors pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, c'est l'habitat vernaculaire, c'est-à-dire qu'on s'est servi... La pierre, on est déficitaire en pierre dans cette région de Double. C'est un sous-sol argilo-siliceux, c'est des marécages, c'était des marécages. La pierre est quasiment absente. On le voit... lorsqu'on voit l'église de Saint-André de Double, c'est une pierre ferruginelle, c'est une pierre noire, mais qui est très, très rare, et même chose dans le Landais. C'est ce qui a entraîné ce type de construction, ce type d'architecture, avec justement les matériaux qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire le bois, la terre, l'argile et la paille pour faire le torchis.
Pour quelles raisons ce style d'habitat est vraiment typique à cette partie du département ? C'est le bois, c'est la main d'œuvre, la matière première peut-être, la terre aussi ?
Exactement. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est que la pierre faisant défaut, il a bien fallu trouver un système parce que si on remonte au 15e, 16e siècle, les transports sont quasiment inexistants et très coûteux. La pierre n'est pas loin, elle est à Possac, elle est à la Tour Blanche, mais c'est très coûteux de la transporter, de l'acheter déjà. Et bien on fait avec les moyens que l'on a sous la main. Et c'était autrefois d'ailleurs, si on remonte avant le 12e siècle, c'était des matériaux qui étaient employés, le bois était employé de façon universelle sur toute la partie, puisqu'on ne savait plus bâtir en pierre comme nous avaient appris les Romains. On a oublié ça pendant la période mérovingienne. Hein. Et ça n'est qu'au 10e, 11e que ce savoir-faire est revenu par les moines, les cisterciens notamment. Donc à cette époque-là, toutes les constructions étaient en bois. Mais ce colombage, cette association de bois et de torchis est vraiment typique de la Double et du Landais. Bon, certes, il y en a dans les Landes, dans le département des Landes, c'était la même chose. Mais en Dordogne, je pense que c'est vraiment très, très local. C'était vraiment très, très local.
Et dans cette partie du département, ce sont toujours des maisons basses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou très peu d'étages.
Exactement, il n'y a pas d'étages. Alors, pour une raison, alors ça, Marc Bonnier nous l'expliquera, ça sera une bonne question à lui poser. On a de la surface, au sol. On ne sait peut-être pas trop bien construire au niveau charpente. Là, je m'avance un peu, je ne sais pas si... Mais est-ce que c'était utile ? Alors, attention, là, on est quand même au 18e, 19e, c'est-à-dire que l'ambiance, je veux dire par là, est paisible. On n'est plus sujet à l'envahisseur, parce qu'autrefois... si on avait des étages, c'était pour se prémunir justement. Les habitations étaient à l'étage, les étables étaient au rez-de-chaussée, et du fait d'avoir l'habitation à l'étage, permettait de mieux se défendre. Petite fenêtre au rez-de-chaussée, et on voyait mieux venir l'envahisseur. Là, au 18e, 19e, ça n'a plus de raison d'être. Donc on préfère rester au sol, et c'est sûrement plus facile à construire, et puis on peut agrandir à volonté au fur et à mesure de la démographie, de l'installation des jeunes avec les parents, etc., pour reprendre l'activité agricole.
Est-ce que c'était une classe sociale précise qui avait la possibilité de construire ce type d'habitat ?
Alors, certainement, puisque je vous ai dit au départ, il y a un savoir-faire. Faire une charpente, c'est pas inné. Il faut quand même, il y a des principes de base. Après, le torchis, c'est peut-être un peu plus à la portée de tout le monde. Donc, je pense qu'au départ, il y avait, c'était des artisans, c'était des charpentiers qui étaient employés par une classe. Alors, c'était essentiellement des agriculteurs, hein, puisque la Double était essentiellement peuplée d'agriculteurs avec quelques maisons de maître par-ci par-là, qui sont très très vite d'ailleurs devenues des maisons en pierre. Mais cet habitat-là, qui était occupé par des gens de conditions assez modestes, ont dû faire appel au départ à une main-d'œuvre qualifiée, et peut-être par la suite, lorsqu'il a fallu agrandir, peut-être se sont-ils essayés à dupliquer ce qu'ils avaient fait faire par des professionnels.
En tout cas, merci.
Et là, je m'avance.
Mais c'est justement pour en savoir davantage, on a hâte de rencontrer Marc Bonnier, donc un érudit local, qui est connu pour ses recherches sur le patrimoine de la Double et du Landais, ce samedi 14 mars, c'est à 15h. L'entrée est libre à Saint-Aquilin. Le rendez-vous, c'est à la salle des fêtes.
C'est ça. Alors, l'entrée, on a décidé depuis deux ans là, de mettre une participation. Autrefois, on faisait entrée libre, participation libre, ça veut dire au chapeau. Maintenant, on a mis une somme, une entrée symbolique à 2 euros pour nos adhérents et 5 pour les non-adhérents. Voilà, c'est aussi pour couvrir les frais, parce que bon, ce monsieur ne vient pas, il prend pas cher, mais il ne vient pas pour rien. Et on a quand même quelques frais, parce que notre tradition, c'est à la fin, donc à la fin de son exposé, on pourrait appeler ça une conférence, mais ce terme conférence, on évite de l'utiliser à tort et à travers, parce que quelquefois il peut paraître un peu pompeux. Donc son exposé, à la fin, à la fin de celui-ci, il y aura un temps d'échange avec l'intervenant. Et surtout, chose à laquelle on tient beaucoup dans notre association, il y a un verre de l'amitié. Donc la participation sert aussi à couvrir ses frais d'organisation.
Merci beaucoup Jean-Marie Bourland pour ces quelques minutes. On rappelle donc avec les patrimoniales de la vallée du Salambre ce rendez-vous ce 14 mars à 15h à la salle des fêtes de Saint-Aquilin. Merci beaucoup pour ces quelques minutes.
Mais merci à vous, c'est avec plaisir.